Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h47, les grands débats du matin avec Lydia Guirous, Elisabeth Lévy. Vos appels 0826-300-300. On va revenir sur la condamnation de Éric Zemmour. Est-ce que pour vous c'est un procès politique? Pour l'instant vous dites oui en majorité. Et puis on va revenir sur le cas de Jean-Michel Blanquer aussi. Est-ce que le fait qu'il soit à Ibiza avant la rentrée, est-ce que pour vous c'est scandaleux ou est-ce que ça vous indiffère, vous trouvez ça scandaleux à 80%.
Alors, sur les réseaux sociaux, vous votez, vous dites donc pour Zemmour, c'est un procès politique. Et il y en a quand même 17 à 18% qui disent c'est justifié. Tout à l'heure, Lydia Guirous, dans votre édito, vous avez dit, vous, que c'était plutôt justifié parce qu'il était allé trop loin, il était trop brutal, c'est ça ?
Oui. Il a dit tous, absolument tous, alors que Christine Kelly l'avait relancé, même lui avait tendu une perche pour l'inviter à nuancer et éviter de tomber dans des propos qui peuvent être condamnables. Bon, la justice a tranché et dire à chaque fois c'est une justice politique, c'est vraiment l'élément de langage classique des hommes et des femmes politiques. Et je trouve que la victimisation ne sied pas vraiment à Éric Zemmour. Ça ne fonctionne pas de tomber dans la victimisation et d'hurler au procès politique. Moi, ça me rappelle un peu ce qu'il avait été fait à l'occasion des affaires de François Fillon. On avait hurlé à la justice politique. Alors là, on s'était quand même étonné de l'empressement et de la rapidité du parquet national financier. Je trouve qu'Éric Zemmour, qui se revendique de De Gaulle, de Napoléon, tomber dans la victimisation, c'est pas franchement génial pour un candidat à l'élection présidentielle. Et je crains que la multiplication des polémiques et en plus cette condamnation, et je crois qu'il y a un autre procès à venir, pourrait éloigner des électeurs qui pouvaient être tentés, qui n'aiment pas trop le côté sulfureux, et surtout, va ralentir, voire arrêter les potentiels ralliements politiques qu'il espérait.
Oui. Elisabeth Lévy ?
Eh bien, je suis en désaccord absolument total avec vous, chère Lydia. Je pense que ça n'est pas... D'abord, j'en ai assez ras-le-bol que ce soit la justice de trancher les questions du débat public. Je veux dire, Zemmour a certainement été... Évidemment, il a eu tort de généraliser, mais il a mis encore une fois le doigt sur un problème. Alors moi, dans mon souvenir, j'ai pas re-regardé la séquence, mais dans mon souvenir... Fois. Ah non, écoutez Lydia, on recommence, s'il vous plaît. Je vous ai écouté scrupuleusement. Donc, vous allez faire pareil. Merci.
Ouais. Bon. Merci, maîtresse.
Non mais c'est gentil, merci.
Bon, allez.
Donc je sais plus où j'en étais, ça commence. Excusez-moi, il me semble que dans mon souvenir, d'abord, Éric Zemmour avait Christine Kelly lui avait fait dire justement à la fin peut-être pas tous. Maintenant, je trouve que ça n'est absolument pas, si vous voulez, j'en ai assez moi, vous parlez de victimisation, moi j'en ai assez ras-le-bol des cris d'orfraie autour de Zemmour, c'est-à-dire que au lieu de lui répondre par des arguments, on répond par des sauts de cabri et de l'indignation. C'est exactement pareil sur la question des handicapés. Moi, j'ai publié un article il y a 2 ans d'un proviseur de lycée, Corinne Berger, qui racontait, si vous voulez, à quel point l'accueil des handicapés dans les classes lambda, si je puis dire, était une chose souvent très compliquée, qui n'était bonne pour personne. Alors, les bons sentiments, si vous voulez, moi, j'en ai un peu marre. J'aimerais que... Et c'est la même chose sur les mineurs isolés. Il y a quand même, dans un certain nombre d'endroits, bien sûr, pas tous, d'accord, mais il y a quand même un grand nombre de problèmes de délinquance avec ces mineurs isolés, et peut-être qu'au lieu de hurler sur Zemmour, on devrait à un moment se poser cette question-là. Vraiment, je trouve toute cette indignation surjouée. Ouais. Je vais vous dire, les gens montrent leur belle âme en faisant avec ces histoires-là, je trouve pas que ça passe avancer le débat. Mais on va peut-être parler de Blanquer.
Non, mais on va en parler dans un instant, mais ça c'est particulièrement important, parce que c'est aussi un acte dans cette campagne présidentielle avec la justice qui se mêle, en fait, entre guillemets, de politique, parce qu'elle a été saisie également, et que ce n'est pas tout à fait terminé. Ça fait réagir 0826-300-300. C'est Frédéric qui est avec nous. Bonjour Frédéric.
Bonjour tout le monde, Madame Guirous, Madame Lévy, Cécile.
Bonjour.
Et Patrick.
Bonne année.
Oui. Ah oui, c'est vrai, on est encore en janvier.
On peut encore le dire.
Oui. Bien sûr.
Bonne année, beaucoup de belles chroniques et beaucoup de beaux débats.
Oui. Alors, vous, votre réaction par rapport à cette histoire, justement, de condamnation.
Non seulement c'est complètement politique, parce que nous avons de toutes les manières une justice qui est extrêmement politisée. Et je ne comprends pas pourquoi Mme Guirous ose dire, se permet de dire que, comment il s'appelle, que Zemmour ait pu... Voilà. Oui, effectivement, il a prononcé cette phrase et il l'a immédiatement corrigée. Pas tous... Pas tous les mineurs isolés. Oui, beaucoup le sont, mais il a immédiatement corrigé.
J'ai revu la séquence, c'est pas le cas.
Je l'ai revu aussi. Et c'est...
Je suis sûr que c'était le cas, moi aussi.
Est-ce que je peux finir ?
Oui, Frédéric.
Dans une conversation, quand on est en colère ou emporté par l'ambiance, moi, ça m'arrive très souvent de dire, à la SNCF, ce sont tous des feignants. Chez les profs, ce sont tous des feignants. Oui, parce qu'on a... quand on est furieux de se trouver dans certaines situations, ou quand on remarque des comportements qui sont exagérés, qui sont répétitifs, etc., on s'emporte là-dessus. Bon.
Oui, mais vous le dites, Frédéric.
Il se retrouve avec ça sur le dos. Lorsqu'il avait fait un discours à une convention qu'avait organisée Marion Maréchal, c'est pareil, ses paroles n'étaient absolument pas à côté de la plaque, mais elles étaient dures. Madame Guirous a employé le mot brutal. Oui, il est brutal. Brutal dans le sens où, lui, il ne s'amuse pas à dire, quand le soleil brille fort, il dit « Oh, il semblerait qu'une légère chaleur me tombe sur les épaules. » Il dit « Non, le soleil me crame. » Voilà ce qu'il dit. Ouais. Et quand il dit quelque chose, il le dit durement. Regardez ce qui se passe avec Sarkozy. Hollande, qui a payé un cabinet noir pendant 5 ans, et avec tous les procès qu'il a réussi à lui faire tomber dessus. Regardez ce qui s'est passé avec Fillon, ce qu'a rappelé Madame Guirous à l'instant, et comment on a vu comment le parquet financier s'est précipité à plat ventre pour faire ça. Et vous croyez que, par exemple, quelqu'un... Vous avez reçu M. Corbière tout à l'heure.
Oui.
Vous l'avez entendu parler des fois, M. Corbière. Vous avez vu ce qui s'est passé avec sa femme, avec le jeune porte-parole de Zemmour. Est-ce que vous avez vu les propos ordurières? Vous avez vu ce qu'il a fait Mélenchon, ce qu'ils ont fait Mélenchon, Corbière, Quatennens, lorsque le domicile de M. Mélenchon a été perquisitionné? Vous avez normalement, je fais la moitié de ça. Ouais. Je prends un policier, je le pousse, je le fais tomber par terre, mais dans la seconde qui suit, j'ai les mains dans le dos, des menottes, et je me retrouve là.
Ah bah, il y avait eu des poursuites engagées. Ouais.
Mais il y avait eu des poursuites. Mais vous avez entendu les journalistes en parler comme ils en parlent pour Zemmour? Vous avez entendu cette espèce d'acharnement qui se passe à droite à gauche? Ça n'a rien à voir. Et effectivement, comme le dit M. Zemmour, M. Dupond-Moretti n'est pas. C'est pas la question qu'il soit ni à droite, ni à gauche, ni pour ou contre M. Moretti. Je sais pas pourquoi, je comprends pas. Ouais. Qu'une personne qui se targue de défendre la justice, je comprends pas. Lui, on a un véritable avocat.
Ouais.
Eh ben non, qu'il soit avocat ou juge, c'est pas le problème. Il détruit sa propre justice, M. Moretti. C'est incompréhensible.
Frédéric, Lydia Guirous va vous répondre.
Oui, alors d'abord, Éric Zemmour est polémiste, et ses propos, il les avait prononcés lorsqu'il était polémiste, et aujourd'hui, il est candidat à l'élection présidentielle. Et moi, j'estime que quand on est candidat à l'élection présidentielle, on a une certaine responsabilité, et il y a une certaine façon de s'exprimer. On peut évidemment briser des tabous, mais on peut le faire de manière un peu plus intelligente, sans heurter, sans blesser, et sans vivre exclusivement de polémiques. Et c'est le piège dans lequel est tombé Éric Zemmour. Bien sûr que ses propos, on peut tenir tous des propos d'agacement. Mais la liberté d'expression, c'est pas la liberté de dire ce qu'on veut, c'est encadré. Donc c'est de cette manière-là qu'il se fait rattraper à un moment qui n'est pas le meilleur moment, puisqu'on est à 2 mois et demi de l'élection présidentielle du premier tour. Ce que je ne comprends pas chez Éric Zemmour, moi j'ai l'impression qu'il se sabote lui-même sa campagne, puisqu'il multiplie encore des polémiques. Alors évidemment, on va me dire que c'est une façon de briser le tabou de la question de l'inclusion à tout prix des élèves qui sont en situation de handicap. Mais encore une fois, quand on veut traiter ce sujet et qu'on est candidat à l'élection présidentielle, on le fait d'une certaine manière, on ne le fait pas avec autant de brutalité pour chercher toujours la polémique. Moi, je trouve qu'Éric Zemmour, il s'enlise et il reste le jouet du polémique qu'il était.
Oui, Damon Frédéric, on va conclure, on va continuer sur le débat parce qu'on a d'autres questions. Oui, allez-y, Frédéric.
Mais Mme Guirous, il ne faut pas édulcorer les choses extrêmement graves dont parle M. Zemmour et dont les autres candidats ou les autres politiciens ne parlent pas par justement, je ne sais pas pourquoi ils se retiennent. Les choses dont ils parlent sont extrêmement graves et nous menacent tous, et vous menacent tous, vous compris Madame Guirous, vous et vos enfants, donc c'est extrêmement grave. On ne peut pas parler de ces sujets en parlant comme si on faisait une petite promenade dans un parc.
Ce que vous dites, c'est que Frédéric, il faut être cash. Merci, on va poursuivre dans un instant, on reviendra sur Blanquer tout à l'heure. Est-ce qu'il doit continuer ou est-ce que qu'il doit démissionner après
cette Alexis Corbière,
voilà, c'est ça. Et puis dans un instant, s'y révèle en campagne avec Emmanuel Macron, parce que Alexis Corbière d'ailleurs insistait, il faut qu'Emmanuel Macron se déclare officiellement. On va voir ça parce que il y a tout le programme économique que l'on attend. Éric Revel dans un instant.
À tout de suite, 8h57.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h04, dans un instant, Revel en campagne.
Oui, et juste après aussi, les vacances de Monsieur Blanquer, Ibiza, les Baléares. Il a envoyé évidemment le protocole de là-bas, en tout cas il l'a mis au point de là-bas, et ensuite il est rentré simplement la veille, ce qui fait évidemment hurler beaucoup de syndicats d'enseignants qui seront de nouveau dans la rue. Qu'est-ce que vous en pensez? Il peut rester ou il doit démissionner? C'est une faute ou pas? Nous allons voir ça dans un instant avec vos appels au 0826 300 300. Elisabeth Lévy, Lydia Guirous.
Sud Radio présidentielle 2022.
Éric Revel.
Éric Revel est avec nous. Bonjour Éric.
Eh bien bonjour Cécile, bonjour Patrick.
Alors la campagne d'Emmanuel Macron est lancée depuis longtemps. Ce que disait Alexis Corbière, notre invité tout à l'heure à
8h15. Oui, j'ai
entendu. Oui, et on ne parle que de crise sanitaire et pourtant, le chef de l'État occupe tous les terrains disponibles pour semer en vue de sa réélection.
Ah oui, oui, pendant que l'espace médiatique, on en parle tous les jours, continue d'être saturé par la crise sanitaire et que le pass vaccinal d'ailleurs va être imposé aux Français alors que la vague Omicron est en train de reculer nettement. Pendant que les polémiques de candidats, Zemmour et d'autres remplissent ce qui reste d'espace médiatique, Emmanuel Macron, comme si de rien n'était, continue de déployer sa toile de candidat. Alors, il y a eu le coup de la sécurité à Nice, vous avez vu, dans 5 ans ce sera magnifique, il n'y aura plus d'insécurité en France. Il y a eu le coup de la réindustrialisation hier, avec les 4 milliards d'euros d'investissements étrangers promis, évidemment qui tombent à pic, comme par hasard à 3 mois de l'élection présidentielle. Et puis aujourd'hui, il y a Macron l'Européen, prononçant un discours cet après-midi au Parlement de Strasbourg pour fixer le cap de la présidence française de l'Union Européenne. Une campagne, Patrick, à bas bruit, mais sans doute efficace, dont les dépenses, évidemment, ne rentrent pas dans le compte de campagne puisqu'il n'est pas candidat. Un grand classique, me direz-vous, de tout président sortant, Macron avance à pas de velours.
Oui, alors il va devoir présenter un nouveau projet. Est-ce qu'il peut se réinventer?
Alors c'est, à mon avis, le truc qui doit l'empêcher de dormir, Emmanuel Macron, parce qu'il sera candidat, évidemment. Parce que la difficulté, vous avez raison, c'est de proposer un projet solide et charpenté, loin du hold-up démocratique, c'est Alexis Corbière qui en parlait, qui reprenait cette expression, loin des rêveries aussi de 2017, où son livre-programme, rappelons-le, ça ne s'invente pas, s'appelait « Révolution ». Et on a vu la suite.
Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans ce projet pour un Macron 2?
Alors, il y aura forcément un projet politique, parce que le projet politique, il sous-tend le projet économique. Alors, la question que je me pose, c'est que le candidat Macron, il ne pourra pas continuer, à mon sens, à jouer la carte du « en même temps ». Parce que ces ambiguïtés ont quand même hystérisé le paysage politique en France. Souvenez-vous, par exemple, moi ça me saute aux yeux, à propos de la montée du wokisme. Vous souvenez, il a dit « il faut déconstruire notre propre histoire ». Ça, c'était avant. Et puis après, il a dit, le même, Macron, il a dit « c'est inquiétant, la société française se racialise. Je pense que cette triangulation perpétuelle crée de la tension. » Donc, je ne pense pas qu'il repartira sur les mêmes bases sur son projet politique. Il faut qu'il réinvente. Projet économique ensuite.
Ouais.
Rendre du pouvoir d'achat aux Français. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Réindustrialiser le pays. Là, pour l'instant, on amuse les gamins, mais il va falloir que le haut commissaire au plan, là, François Bayrou, nous donne une feuille de route. Comment on réindustrialise le pays? Il faut redonner du tonus, on en parlait, Patrick, au commerce extérieur. Sur le volet économique, la France n'est pas en grande forme. Il va donc falloir également qu'il réinvente un projet économique sensé, solide. Et c'est pas gagné. La construction de ce projet en 2022 pour Macron sera évidemment déterminante. Le timing aussi, souvenez-vous, le timing de son entrée dans l'arène de l'élection présidentielle, aussi. La façon dont il va annoncer sa candidature, on lui déconseille de faire comme Lionel Jospin qui, à son époque, avait envoyé un fax, à l'époque où ça existait encore, à l'AFP pour dire « je suis candidat ».
Finalement, il peut le faire sur les réseaux sociaux.
Il peut le faire sur les réseaux sociaux, non, mais je lui déconseille de faire un truc très très classique. Mais la marge de manœuvre, en réalité, d'Emmanuel Macron, elle est bien plus étroite qu'on ne l'imagine aujourd'hui. Parce qu'en réalité, il est un peu cerné. Il est en même temps, ça a longtemps été un avantage, maintenant ça devient un inconvénient. Parce qu'il est en même temps, mais il est ni tout à fait de droite, ni tout à fait de gauche, ni tout à fait de droite nationale, ni tout à fait d'extrême gauche. D'où l'intérêt évidemment pour Macron de gagner du temps et de se déclarer tard, et de jouer peut-être, comme en 2017 quand même, la campagne éclair, la blitzkrieg, comme disent les stratèges en politique.
Lydia Guérousse, avant de parler de Jean-Michel Blanquer dans un instant, il doit se déclarer assez tôt, là, ou alors il peut attendre, justement, faire patienter.
Je suis pas certaine qu'il ait intérêt à se déclarer tard et à attendre.
Ouais.
D'autres candidats, je me souviens notamment de Nicolas Sarkozy qui avait dit qu'il lui manquait 15 jours. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les Français ont besoin que le président de la République clarifie un petit peu les choses et qu'on sache si on a affaire au président ou au candidat.
Ouais.
Il me semble que 15 jours, 3 semaines de plus, ça pourrait aller, mais davantage, ça sera beaucoup trop tard. Je l'imagine bien faire une déclaration de candidature, pourquoi pas entourée de la jeunesse, une jeunesse qui a beaucoup souffert ces dernières années, une jeunesse qui est aussi le symbole de l'avenir.
À quel horizon vous voyez faire ça ?
Pas que 15 jours, 3 semaines, mais pas plus. Au-delà de ça, ça me
début
semble
mi-février.
Être quand même très, très tard.
Et Elisabeth Lévy, d'un mot, je sais que vous êtes mauvaise en pronostic, hein, Elisabeth. Vous l'avez déjà dit plusieurs fois, mais quand même...
Tout peut changer.
Écoutez, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce théâtre maintenant, si vous voulez, puisque effectivement, tout le monde sait qu'il va être candidat. Donc, après, si vous voulez, les communicants vont discuter les stratèges. Est-ce que c'est bien ce date-là, pas cette date-là? Je veux dire, ça devient, Lydia a raison, là, ça commence à devenir un peu c'est la comédia dell'arte, si vous voulez. C'est, on fait, enfin, je comprends plus très bien l'intérêt maintenant de ne pas se déclarer, sinon pour de basses raisons de temps de parole, etc.
Aussi.
etc. si vous voulez, mais pour le reste, si vous voulez, ça y est, on sait très bien qu'il va être candidat. Maintenant, ça devient un peu ridicule, non?
Allez, j'ai très envie, en tout cas, c'est ce que il avait
il a très envie quoi de quoi, mais il faut arrêter avec les envies d'Emmanuel.
On s'en fout
un peu de ses envies.
Allez, dans c'est un instant, qu'est-ce qu'il a envie de faire avec Jean-Michel
justement,
Blanquer?
Non mais pardon, je voudrais dire un mot là-dessus.
Oui.
Parce que moi j'ai été frappé par la phrase de son épouse, que j'ai, qui est toute une dame tout à fait respectable, justement quand elle a dit « il a très envie ». Mais excusez-moi, je veux dire, j'ai envie, c'est pas comment dire, c'est pas un programme. La question c'est l'intérêt général, le bien public, l'intérêt du pays, les envies d'Emmanuel Macron, on s'en fiche.
Bon, dans un instant, Jean-Michel Blanquer, stop ou encore? Allez, vous pouvez nous appeler 0826 300 300, stop ou encore, après ses vacances à Ibiza.
9h11.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile Deménibus.
Il est 9h14, on va revenir sur notre question du jour sur Jean-Michel Blanquer. Il aurait annoncé le protocole sanitaire à la rentrée scolaire depuis Ibiza. Est-ce que ce matin, on vous demande si vous êtes scandalisé ou si cette information vous indiffère? Vous êtes scandalisé à 80% et vous nous dites que c'est scandaleux, c'est ce que nous sommes en état d'urgence. Le président fait des conseils de défense top secret et lui est en vacances à Ibiza. Vous trouvez ça aussi scandaleux? Vous dites que c'est peut-être, sous le ton de l'humour, le télétravail ministériel. Carpe diem, plus rien de méthode. Beaucoup de télétravail qui reviennent et aussi de gens qui sont amusés effectivement par cette situation.
Tiens, et puis un auditeur qui me dit Jean là, une escapade selon Patrick Roger point d'interrogation. Pourquoi j'ai utilisé le terme escapade?
Oui, tout au début de la matinée.
Ah
mais,
oui, c'est vrai.
C'était il y a longtemps.
Bah, bien sûr. Et puis c'était évidemment, il y avait quelque part une forme d'escapade quand même.
Oui,
bon, et il y a Olivier qui dit le problème finalement, il avait le droit de résider à Ibiza, de prendre ses vacances. Le problème est qu'il a fait croire qu'il était à Paris. Éric Revel.
Et oui, exactement. Parce que dans cette fameuse interview qui est parue le dimanche sur le site du Parisien, Jean-Michel Blanquer, la photo, le montre à son bureau du ministère de l'Éducation nationale. Alors, on ne lui demandait pas évidemment de mettre une photo de ses vacances à Ibiza, mais il y a un peu tromperie sur la marchandise quand même. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire le ministre, il est à son bureau, il travaille avec une photo qui l'atteste, et en fait, pendant ce temps-là, est en train de faire la fête à Ibiza. Peu importe. Mais si vous voulez, le problème, il est politique. Hein. Là, il faut raisonner de manière assez cynique et clinique. C'est que devant Jean-Michel Blanquer, là, il y a un statut qui est celui de ministre de l'Éducation. Là, vous avez un malaise plus qu'achevé dans l'Éducation nationale, un nouveau préavis de grève qui est annoncé pour jeudi, et vous avez un ministre de l'Éducation nationale qui est totalement démonétisé. Donc, Ça, mon avis, c'est le coup de pied de l'âne. C'est, ouais. c'est le coup de trop. C'est-à-dire que je ne vois pas comment Emmanuel Macron, alors ça se passera peut-être par Jean Castex, peut, alors qu'il a besoin, au contraire, pour reprendre la main sur le monde de l'éducation, il a besoin d'un ministre ou d'une ministre qui incarne autre chose. Et cette affaire, alors, il faudrait savoir comment Mediapart a eu l'info, d'ailleurs. Ouais, ce serait intéressant. Non, oui. mais ce serait intéressant. Ouais. Parce que les règlements de compte à l'intérieur du gouvernement, parce que souvenez-vous, Jean-Michel Blanquer, c'était le meilleur d'entre eux. C'était le vice-président, vous voyez. Et là, il n'y a pas une semaine, pas un jour qui passe sans qu'un coup quasiment fatal politiquement lui soit asséné.
Elisabeth Lévy, et ensuite Lydia Guirous, et vous au 0820.
Absolument horrifié par cette chasse à l'homme. Je trouve que Mediapart s'est comporté comme d'habitude, comme de la presse de caniveau, c'est-à-dire de la délation. On se fout éperdument. Moi, je me fiche éperdument de savoir où ce protocole a été fait ou pas. Et au demeurant, je pense que les gens qui ont fixé de telles contraintes à l'école, c'est-à-dire à Jean-Michel Blanquer, devraient se poser des questions. On peut avoir beaucoup de désaccords avec Jean-Michel Blanquer, mais il y a beaucoup d'hypocrisie et beaucoup de démagogie et beaucoup de cette espèce de populisme au petit pied, si vous voulez. Ah, c'est affreux, il était à Ibiza. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Je veux dire, il n'a pas d'ordinateur.
Non, attendez, Elisabeth, vous ne pouvez pas dire ça, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui étaient en train de préparer en fait leur rentrée, qui le vendredi ne savaient pas en fait quel planning ils allaient aligner, comment ils allaient faire.
Est-ce que ça a changé quelque chose qu'il soit à Ibiza?
Oui, parce qu'en plus, le protocole était nul. Ouais. Le protocole pour les enseignants était nul.
Finir, pardon, Eric. Terminé. C'est autre chose. Qu'il l'ait préparé à Ibiza, qu'il l'ait préparé à Ibiza ou qu'il l'ait préparé à Paris, moi, alors, je répète, oui, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'est-ce que je m'en fiche, en tous les cas? Et je pense qu'on ferait mieux, au lieu, si vous voulez, d'avoir ce genre. Alors là, vraiment, je trouve ça minable. Je trouve cette affaire tout à fait emblématique de ce qu'est Mediapart. Et, si vous voulez, on peut tout à fait critiquer le protocole, mais il aurait été tout aussi nul s'il avait été fait à Paris. Donc, si vous voulez, je trouve ça misérable.
Oui, enfin, ils font leur boulot, ils ont une information. Lydia Guirous,
Le protocole n'a pas été décidé par le ministre de l'Éducation nationale, d'une part, donc ça c'est quand même important de le rappeler, il a été reçu tardivement, et ensuite il y a une erreur de communication, c'est de communiquer dans Le Parisien, et en plus avec un article abonné. Moi je me demande ce que faisait son conseiller en communication, il aurait pu être quand même plus vigilant à l'approche
de la rentrée. C'est étonnant de la part du Parisien aussi de publier une telle photo quand même.
D'accepter non, de la photo. C'est normal, ils ne vont pas vous publier non plus une photo
d'accord, mais ils mettent quand même
en étant à la plage. Après, il était en vacances, il était à 2 heures de Paris, il a respecté les règles qui étaient imposées aux membres du gouvernement. Moi, je reste quand même reconnaissante parce que c'est celui qui a fait en sorte que les écoles restent ouvertes en France. Et ça, c'est extrêmement important de le rappeler parce que c'est vraiment très important pour les enfants, pour la qualité de l'enseignement, pour la continuité de l'enseignement. Il n'y a pas beaucoup de pays européens qui ont gardé une école autant ouverte et je crois que c'est une polémique qui a un petit brin de populisme, surtout à l'heure du télétravail.
Oui, et bien, vos témoignages au 0826 300 300 avec Sonia qui nous appelle de Cachan. Bonjour Sonia.
Bonjour Sonia.
Bonjour toute l'équipe.
Bonjour Sonia.
Bon, bah, sur le principe de M. Blanquer à Ibiza, oui, non, je ne sais pas s'il y aurait eu un protocole autre, s'il l'avait fait effectivement à Paris ou je ne sais où. C'est pas trop ça le problème. Moi, le problème, c'est que depuis ce début de confinement, on entend tout et n'importe quoi. Moi, j'ai ma sœur qui est directrice d'école de maternelle. Elle n'en peut plus. Elle est en train de faire un burn-out parce que tout est fait en dépit du bon sens. Et dans les médias, on entend n'importe quoi. C'est-à-dire qu'au premier confinement, quand les écoles ont réouvert, ils parlaient, on entendait les politiciens à grands coups de médias. Oui, on va désinfecter les écoles, on va faire ceci, on va faire cela. Ma sœur, elle me disait, j'attends encore la femme de ménage qu'elle vienne passer un coup de balai. Donc je suis très loin de la désinfection. Alors ça, c'est déjà un premier point. Là, on leur donne des masques en tissu, ils ne peuvent pas respirer avec. C'est insupportable. C'est moi qui lui fournis des masques à ma sœur, qui est institutrice et directrice d'école. Après, quand on entend Blanquer, oui, j'ai dédoublé les classes. Il a rien dédoublé du tout. Il a dédoublé dans certains quartiers, mais ce n'est pas possible. Ma sœur, elle me dit, moi, j'ai dédoublé 2 classes. J'ai pris un peu sur le gymnase. J'ai pris un peu sur le dortoir. Après, je vais pas prendre sur le trottoir. Elle me dit, c'est n'importe quoi. Il y a des classes où on peut pas dédoubler parce que la surface ne le permet pas. Donc c'est des effets d'annonce. Oui, effectivement, il y a quelques écoles qui ont dédoublé quelques classes, mais on va pas agrandir les murs. Donc tout ça, c'est des effets d'annonce qui sont insupportables. Quand ils reçoivent des protocoles, quand ils ont 35 élèves par classe, comment voulez-vous qu'ils mettent les protocoles en place? Dans ces cas-là, ils ne font que du gardiennage. Elle me dit, moi j'ai des enfants qui pleurent, on leur explique qu'il faut se laver les mains, ils ont 3 ans, ils ne savent pas ce que c'est que faut aller se laver les mains, faut pas faire un bisou à ton copain, faut pas faire un bisou à ta copine. Elle me dit, on n'en peut plus. C'est insupportable. Donc, de garder les écoles ouvertes, oui, mais à quel prix ça a été fait? C'est un non-sens. C'est un non-sens.
Oui, bon, ce que vous dites, finalement, c'est que ça ne change pas grand-chose qu'il ait fait cette annonce ou pas d'Ibiza
au Baléares. Oui,
c'est pas ça le problème. Non, mais j'ai bien compris, hein, bien sûr. Non, mais Sonia, c'est intéressant, votre réflexion. Mmh. Bien sûr, sur le casse-tête dans les écoles. Et c'est vrai que beaucoup des... Bon, ils ont eu beaucoup de difficultés pendant les 2 ans, mais cette rentrée de janvier, c'était encore plus compliqué.
Oui, alors, je voulais quand même vous dire quelque chose qui va vous faire rigoler. Oui. Les capteurs de CO2.
Oui.
Donc ma sœur a fini par en recevoir une dizaine de la mairie. Mm. Donc première chose, elle les reçoit, c'est avec des ports USB. La mairie oublie
pour les brancher.
Fournir. Ouais. Oui, alors, attendez, vous allez rigoler, Made in China. Ouais. La mairie oublie de leur fournir les ports USB. Mm. Mais en maternelle, on n'a pas d'ordinateur dans les classes. Donc les maîtresses, donc elle a signalé à la mairie qu'ils avaient oublié de fournir les câbles USB. La mairie met 2 semaines avant d'aller leur ramener des câbles USB. Certaines des maîtresses ramènent des ordinateurs de chez elles pour brancher ces fameux capteurs CO2. Mmh. À la finale, c'est des trucs à bas coût qui marchent un quart d'heure alors qu'il faut les brancher pendant 2 heures pour que ça marche un quart d'heure. Ouais. Elle m'a dit on a essayé pendant une semaine et puis on les a foutus dans le fin fond d'un placard parce qu'ils servent à rien.
Non mais alors Sonia, pour le coup là, c'est pas la faute de Jean-Michel Blanquer puisque parce que pas pour le défendre ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que les capteurs normalement ça revient aux écoles, aux municipalités en primaire.
C'est risible, risible. Ouais. On fait ramener des trucs de Chine qui ne marchent pas, on leur fournit des trucs sans câble, sans penser qu'en maternelle, les maîtresses n'ont pas d'ordinateur dans les classes. À la finale, ça marche, faut que ça soit branché 2 heures pour que ça marche un quart d'heure. Vous voyez un peu le côté risible de la chose.
Ouais, complètement. Merci.
Comme ça.
Ouais, merci.
Merci Sonia pour votre témoignage.
Merci Sonia de votre appel,
et
votre réaction
et
vos explications. Bien sûr, on a une pensée. Vous pensez jeudi, Éric Revel, que ça risque de se...
Sonia
avait oublié quelque chose. C'est la course de plus.
Pendant que Monsieur Blanquer est à Ibiza, ma sœur est à la Riboisière parce que suite au stress qu'elle engendre depuis le début du confinement, elle s'est mise à avoir une maladie chronique des oreilles et du coup elle a des vertiges, des acouphènes et du coup elle est obligée de se faire des injections de cortisone dans les oreilles. Tellement elle est au bout du rouleau. Donc pendant que Monsieur Blanquer est à Ibiza, ma sœur est à la Riboisière.
Ouais, merci Sonia, effectivement, pour ce témoignage. Éric Revel, ça va être important jeudi, l'appel à manifestation. Et donc là, avec cela, ça va redonner de la vigueur justement aux manifestants.
Je pense que ça va être une manifestation importante pour une raison très simple, c'est que la façon dont le gouvernement a cédé à chaud. Dans la foulée de la grève de jeudi dernier, vous vous souvenez, nuitamment, Jean-Michel Blanquer est apparu pour dire on a trouvé 5 millions de masques FFP2, on va faire un effort sur ceci ou cela. Tous les experts de relations sociales vous disent quand il y a un gros conflit, là je parle de la France, il ne faut évidemment pas le traiter à l'échaud. Il ne faut pas le traiter quelques heures plus tard et donner l'impression qu'on cède aux manifestants. Parce que sinon, vous tirez la pelote et la pelote vient intégralement. Donc là, on peut dire que la mobilisation a marqué un point chez les enseignants, que celle de jeudi va sans doute être forte pour les mêmes raisons, et que se pose la question quand même de Jean-Michel Blanquer, peut-il rester un interlocuteur ou pas? Est-ce qu'il va être... Il a déjà été un peu cornaqué, vous avez vu, par Jean Castex dans cette manif. C'est Jean Castex qui a tenu la réunion avec Véran, qui était d'ailleurs à distance par Zoom. Donc, je pense que ça va être suivi, et les manifestants vont avoir évidemment des mots d'ordre, ils vont vouloir obtenir des choses. la façon dont s'y est pris le gouvernement, là, depuis le début de cette crise, ça va être compliqué.
Merci, en tout cas, à tous les trois, Lydia Guérous, Éric Revel,
Elisabeth Lévy,
et vos appels, Sonia, évidemment. Dans un instant, on va poser, en fait, une question qui peut vous intéresser, notamment vous et
Éric Revel.
Le protectionnisme est-il en train de prendre sa revanche sur la mondialisation avec la crise, en fait, du Covid? C'est une question que nous allons poser dans un instant à Jacques Sapir, qui sera avec nous, et un autre...
C'est que les États-Unis, qui sont ultra libéraux quand il ne s'agit pas d'eux-mêmes, sont toujours ultra protectionnistes dans l'histoire économique du monde.
Donc, Jacques Sapir, dans un instant, l'économiste, et Fergan Aziari, également conseiller en politique, qui sera avec nous tout à l'heure.
Et puis vous, si vous voulez nous appeler,
vous pouvez réagir et poser vos questions.
On vous attend, 0826 300 300, à tout de suite.